21h passée de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio, une heure que nous allons passer avec Jean-Joseph Julot. Bonsoir Jean-Joseph.
Bonsoir.
Alors il est vrai que votre prénom et votre patronyme exigent un exercice d'articulation. Jean-Joseph Julot, vous êtes une figure de style à vous tout seul, une très belle allitération.
Je me suis très reconnaissant de vous être exercé à prononcer mon prénom parce qu'effectivement, très souvent, à la radio ou à la télé, certains sont surpris par cette succession de son J et trébuche. Vous n'avez pas trébuché. C'est un virelangue. Ce qu'on appelle au Québec, on appelle ça des virelangues, c'est-à-dire des phrases qui vous font déraper sur certaines syllabes. Alors Jean-Joseph, je vais vous donner tout simplement l'origine de ces deux prénoms associés, accolés avec un trait d'union. Mon grand-père maternel s'appelait Jean, mon grand-père paternel s'appelait Joseph, et le jour de ma naissance, ils étaient tous les deux présents. J'étais le premier petit-fils. Comment va-t-on le prénommer? Ils se sont regardés. Si on l'appelait Jean, si on l'appelait Joseph, eh bien on va l'appeler Jean-Joseph. Voilà.
Alors Jean-Joseph, cela exige tout de même un peu d'entraînement. Je vais essayer de ne pas flancher tout de même, mais bon, restons vigilants et prudents. Vous êtes né en 1950.
Oui,
à Belley-sur-Vilaine, est-ce bien cela?
Exactement, oui, c'est une section d'une commune qui s'appelle Guémené-Pinfaux, c'est en Loire-Atlantique, c'est à la limite de la Loire-Atlantique et de l'île-et-Vilaine. Et cette commune, cette section de commune de Belley-sur-Vilaine a quand même une petite histoire parce que au milieu du 9e siècle, eh bien, Charles le Chauve, qui avait des prétentions sur la Bretagne, eh bien, a livré une bataille et l'a perdue de façon assez navrante d'ailleurs. Donc c'est, vous voyez, comme je n'ai pas de cheveux, j'ai l'habitude de dire que Charles le Chauve, c'est mon ancêtre.
Voilà. Alors vous l'êtes peut-être plus, mais professeur certifié de lettres modernes.
Ah oui, bien sûr, oui. Vous savez, vous passez des concours quand vous êtes enseignant. Alors, j'ai fait un petit parcours, disons, assez composite. J'ai fait d'abord une licence de philosophie, après j'ai fait une formation en histoire, parce que je me suis dit, je vais enseigner l'histoire. C'était à l'époque où on passait où on était professeur d'enseignement général des collèges. Et donc, j'ai fait cette formation.
Ensuite, mais on était bivalent.
On était bivalent et c'était très intéressant.
On était bi.
On était bi, exactement. Et puis ensuite, j'ai fait une licence de lettres, parce que j'ai toujours aimé fréquenter ces lieux où on leur donne des cours, donc c'était passionnant. J'ai passé le CAPES, l'agrégation, j'étais admissible à l'agrégation, et puis je me suis arrêté. Je me suis dit, bon, ça suffit. Et j'ai continué à écrire parce que ça, c'est quand même ma première passion.
Alors, vous êtes, je l'ai lu, une figure emblématique du savoir ludique. Alors, il faut que je le dise, c'est que vous êtes l'auteur du célébrissime Histoire de France pour les nuls. On va en parler de cette série pour les nuls. Vous avez en octobre 2014 fait paraître La littérature française pour les nuls, La poésie française pour les nuls et Le français correct pour les nuls. Vous écrivez sans arrêt, mais en cherchant sur votre site Jean-Joseph Julot, on apprend que vous avez fait paraître en 1983 un roman qui avait pour titre « Le sang des choses » et qui d'ailleurs a été récompensé du prix de l'Académie de Bretagne et du prix de la nouvelle de la ville du Mans. Et puis vous avez écrit de la poésie, vous êtes un écrivain et pas seulement l'érudit qui voudrait que les Français apprennent et respectent leur littérature en s'amusant, vous êtes aussi un écrivain.
Je suis très reconnaissant d'être informé dans le détail, parce qu'effectivement, on a oublié que j'écrivais dans les années 80, j'étais classé nouvelliste, et j'avais produit des recueils de nouvelles qui avait été sympathiquement accueilli par la critique, et je me préparais donc à écrire des œuvres de littérature, des ouvrages de littérature, des livres où la littérature était dominait. Cependant, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que j'enseignais en même temps. J'enseignais et j'adorais, quand j'avais une classe devant moi, eh bien faire sourire mes élèves. Quelquefois les faire rire, parce que je considère que lorsque le cerveau est détendu, lorsque les muscles sont détendus, lorsque tout est détendu, le savoir passe bien. Vous racontez une petite histoire à vos élèves, ils sont là, ils se disent « Tiens, on s'amuse un petit peu », et puis après, vous faites passer la notion difficile. Et ça marche. C'est une pédagogie que j'avais adoptée. Et lorsque je suis arrivé aux éditions First, en 98, j'apportais avec moi un petit livre qui précisait les règles de la langue française. Et je l'avais fait dans cet esprit ludique, avec des petits clins d'œil, avec un peu d'humour. Et l'éditeur l'a publié immédiatement, s'est dit « Tiens, voilà une nouvelle approche de la difficulté, une nouvelle approche de façon détendue. » Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Je suis en train d'acheter aux États-Unis la licence pour les nuls. »
Alors en fait, c'est une collection américaine à l'origine, oui. C'est fort. For Dummies. C'est les nullos en Amérique,
oui,
c'est les médiocres, les nuls.
Je crois que c'est même un peu plus fort que nul aux États-Unis. C'est un peu moins... C'est un peu moins sympathique. Et ce qui se passait en 1990, lorsque cette collection a été créée, eh bien, c'est que l'informatique était en train de naître, de se développer, et les gens n'y comprenaient rien. L'éditeur qui a eu cette idée géniale s'appelle, je crois que c'est John Kilkillan, en 87 d'ailleurs. En 87, il s'est dit, il faut qu'on crée des livres qui expliquent de façon simple. Il y a toujours un moyen d'expliquer les choses de façon simple. Donc, on va expliquer l'informatique pas à pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
C'était alors, le PC pour les nuls, c'est sorti en janvier 2001. Ça, oui. C'est la date que j'ai relevée sur le site de pour les nuls.
En France. Alors, aux États-Unis, je continue l'histoire pour les États-Unis. En 1990, le livre est prêt. Il sort. Il a beaucoup de mal à sortir, d'ailleurs, parce que les libraires aux États-Unis voient le titre MS-DOS, For Dummies. MS-DOS, le langage, vous savez, de l'informatique, For Dummies. Et disent à l'auteur, mais vous n'imaginez, à l'éditeur, mais vous n'imaginez pas, on ne va quand même pas mettre dans la vitrine de notre librairie quelque chose qui est fort de mise. Vous allez faire fuir les gens, vous moquez d'eux. C'est inimaginable comme concept. Il a eu beaucoup de mal à placer ses livres, et lorsque il les a enfin placés, eh bien, ils se sont vendus comme des petits pains. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris que lorsque le lecteur a saisi qu'il y a là un petit peu d'humour, eh bien, que ça ne s'adresse absolument pas pour le vrai nul. Vous savez, le vrai nul, celui qui n'ouvre jamais un livre. Voilà un vrai nul.
Ah, le vrai nul, c'est ça, c'est la définition,
oui,
du vrai nul.
Oui, il considère qu'il a un savoir définitif, il n'ouvre plus un livre. Voilà, donc s'il ne fait plus fonctionner sa curiosité, son esprit critique, son intelligence, moi je considère que si on n'acquiert pas, le savoir décroît, et les capacités cognitives aussi.
Jean-Joseph Julot, savez-vous tout de même qu'il y a actuellement des professeurs de lettres en France qui ont arrêté de lire ?
Oui,
ça existe.
Ça existe, et oui. Alors ça, c'est un réel problème, tout simplement parce que les professeurs de lettres, je l'ai été, eh bien, ils ont un travail considérable. C'est vrai qu'on a souvent ce regard un peu ironique sur la profession en disant « Ah oui, moi je veux être professeur parce que juillet, août et puis toutes les vacances. » Mais on n'imagine pas le travail que une profession, un professeur de lettres surtout, que le professeur de lettres abat en une semaine, parce que il a des préparations, il a sa présence aussi, il doit intéresser ses élèves, et puis ensuite il y a les corrections, des corrections de dissertations qui font 6-10 pages. Vous imaginez, c'est énorme comme travail. Alors effectivement, les professeurs sont fatigués et ils laissent peut-être de côté un peu la lecture, c'est vrai. Oui.
Bon, nous ne sommes pas encore fatigués, mais on va marquer une première pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes. C'est Jean-Joseph Julot, répété pendant la pause musicale, Jean-Joseph Julot, qui est l'invité ce soir de Wagon Livre sur Radio.
I knew my heart belongs to you. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Jean-Joseph, tout va bien ?
Tout va très bien.
Alors nous avons commencé à parler de cette collection pour les nuls. Alors que tout le monde connaît, me semble-t-il, maintenant, parce qu'elle touche tous les domaines intellectuels, scientifiques, artistiques. Il y a la guitare pour les nuls, l'islam pour les nuls. Enfin, tout est à portée du curieux qui a envie de progresser et de sortir d'une connaissance trop générale ou quand même un peu trop médiocre.
Oui, voilà.
Et en s'amusant.
Vous avez parfaitement compris l'objectif de cette collection. Lorsque mon éditeur m'a proposé d'écrire le tout premier livre en français, donc je rappelle que les nuls en 1990 ont commencé à se vendre aux États-Unis. Les Américains en ont fait une licence. Mon éditeur l'achète en 99 et j'écris donc le premier livre sur les règles de la langue française,
donc
mais avec un peu
français correct pour français les nuls.
Pour
c'est,
les
ça,
nuls.
Hein.
C'est le français correct.
Et c'est le premier
tout
de
premier.
La série
oui,
en France.
En français.
C'était
le.
C'est vous.
Oui, c'est moi. Oui.
J au cube.
Voilà,
oui,
exactement. Et mon éditeur m'a dit, je vous propose de d'écrire ce livre-là. Au début, j'étais pas tellement enthousiaste parce que il y a une présentation. Dans laquelle il faut entrer. Si vous prenez un livre de la collection pour les nuls, vous avez grosso modo 25-26 chapitres qui sont répartis en 5 ou 6 parties. Et les numéros de chapitres sont indépendants du numéro des parties. C'est ce petit côté arithmétique qui m'agaçait, parce que à chaque nouvelle partie, eh bien, vous entrez dans le décompte du nombre de chapitres qui, lui, se fiche pas mal du nombre des parties. Ça veut dire que vous entrez à la partie 2, vous êtes au chapitre 5. Vous commencez par le chapitre 5. À la partie 3, vous commencez par le chapitre 10. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est ça qui m'agaçait. Le reste, c'était vraiment du pain béni pour moi parce que c'était une façon d'écrire qui me plaisait énormément. Et cette petite difficulté passée, ça a été un bonheur d'écriture.
Mais c'est contraignant.
Alors, on me dit quelquefois, vous avez un cahier des charges qui doit être contraignant. Pour moi, c'est le contraire. Ça me libère, si vous voulez, parce que dans un livre pour les nuls, vous avez des petits encadrés qui sont là pour distraire le lecteur. Et celui qui les écrit se distrait aussi. Vous avez des énumérations, ça rompt un petit peu le côté monotone de la page qui risquerait de faire un gros pavé. Vous avez aussi la possibilité d'écrire les titres comme vous le voulez, avec un petit clin d'œil, un petit peu d'humour. Et ça, c'est très plaisant parce que vous vous faites rire vous-même dans votre bureau en écrivant. Donc, c'est très distrayant.
Alors, Jean-Joseph, juste, je donne quelques dates clés que j'ai prises sur le site officiel pour les nuls. Donc, le premier titre de la collection, c'est vous qui avez eu l'honneur de le rédiger. J'en rappelle le titre, « Le français correct pour les nuls », que l'on trouve toujours d'ailleurs, si on le souhaite.
Ah oui, on le trouve toujours, effectivement.
Bien. Donc, ça sort en 2001. Ensuite, décembre 2006, il y a eu ce best-seller « La culture générale pour les nuls ». En 2008, « La guitare pour les nuls ». Là, on touchait à un instrument. Il y avait peut-être même un CD support.
Oui, c'est dans cette liste par année, il y a quand même eu le succès imprévu, totalement imprévu, en 2004. En 2003, mon éditeur me demande d'écrire « L'histoire de France pour les nuls ».
Et million d'exemplaires.
Oui, et je refuse. Dans un premier temps, je refuse parce que je devais l'écrire avec un inspecteur de l'éducation nationale qui m'avait dit qu'il était partant, qui m'avait dit oui. Et puis, après quelques semaines de réflexion, il me dit, ma femme m'a dit que, enfin j'ai compris que, vous savez, dans Honoré de Balzac, dans Eugénie Grandet, quand le père Grandet veut refuser quelque chose, il dit, je vais aller consulter ma femme. En fait, il ne va pas la consulter, il prend ce prétexte-là. Donc j'ai eu un peu la même situation et je me suis retrouvé tout seul avec le projet. Et j'ai d'abord dit non à mon éditeur, j'avais une folle envie de le faire, mais je voulais qu'on me dise, on te laisse carte blanche. Tu fais comme tu veux, tu la rédiges comme tu veux. Et ça, pour quelqu'un qui aime écrire, c'est un cadeau. Et quand on m'a dit ce dernier argument, j'ai dit oui, je vais la faire. Et donc, je l'ai écrite en 2003-2004. Elle est parue en août 2004. Et là, personne ne savait ce que ça allait donner, personne n'avait confiance dans ce livre-là. On se disait, mais vous vous rendez compte, l'histoire de France pour les nuls, alors que à l'université, on en a fait une discipline quasiment sacralisée, elle est la propriété des universitaires, vous n'imaginez pas, vous allez vous casser la figure. Et, bref, enfin, il y avait toujours les Cassandres qui étaient là et qui, ont pour une fois, ont eu tort. Il y en a un seul qui a prévu le succès, qui a téléphoné aux éditions First et qui a dit « Méfiez-vous, votre livre va faire un tabac, il va se vendre par centaines de milliers d'exemplaires. » Et je vous pose la question.
Alain Decaux.
Non.
Max Gallo.
Non, je vais vous le dire, parce que la réponse est inattendue. Eh bien, c'est l'imprimeur. L'imprimeur, quand il a vu tous les ouvriers sur la chaîne du livre qui s'arrêtaient pour lire des passages et qui en ont tous demandé un exemplaire, il a dit « Attention, là, quelque chose est en train de se préparer ». Effectivement, il ne s'est pas trompé, parce qu'une semaine après la sortie du livre, eh bien, il était épuisé, il a fallu le retirer en urgence.
Alors, à l'heure actuelle, c'est plus d'un million d'exemplaires vendus de l'Histoire de France pour les nuls, sorti donc en 2004, un succès qui perdure.
Qui perdure,
et
oui.
Sous la plume de notre Jean-Joseph.
Oui, c'est très agréable de rencontrer les lecteurs, de voir leurs réactions, de les entendre qui me disent, eh bien, je ne m'intéressais absolument pas à l'histoire. Et là, bien, j'ai trouvé ce qui me satisfaisait et ce qui m'a fait sourire, ce qui m'a ému et ce qui m'a plu. Donc voilà, le pari est réussi à travers cette collection pour les nuls qui est très bien faite.
Alors juste pour reprendre ma petite chronologie de l'histoire de cette série des nuls, en 2009 est lancé le site internet, donc www.pourlesnuls.fr.
Oui, oui.
On peut y aller.
Oui.
Alors, il y a des petits jeux. C'est tout à fait formidable. J'y suis allé passer un petit peu de temps. En janvier 2011, Les Nuls débarquent sur Facebook. Et puis, en septembre 2015, ça aussi, c'est important, c'est que Les Nuls s'associent avec les éditions Delcourt dans le but de faire un peu de BD et de rendre encore plus attrayante la collection.
Exactement. Alors, on avait commencé en 2011 à faire de la BD. C'était d'ailleurs dans la collection pour Les Nuls la première fois que paraissait une bande dessinée. On adaptait l'Histoire de France pour les nuls en bande dessinée. On n'a pas terminé d'ailleurs, puisque on pense terminer cette année avec 10 albums de bande dessinée qui retracent l'Histoire de France. Et effectivement, les éditions First se sont associées avec les éditions Delcourt pour publier sur certains thèmes eh bien, des ouvrages qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui permettent aux lecteurs d'accéder à un savoir dans quelque domaine que ce soit.
Oui. Alors là, en BD, justement, chez les nuls, il y avait la grossesse pour les nuls et la drogue pour les nuls.
La drague pour les nuls, oui. D'abord la drague.
Paronomase.
Oui, effectivement.
Petite drague, drogue, commencer par la littération,
peut-être,
petite paronomase.
Peut-être que la drogue pour les nuls. Vous savez, aujourd'hui, le nombre de thèmes est toujours en progression. On n'a pas fini de traiter tous les thèmes. Il y a toujours des propositions. Et chaque année, il sort... combien, disons 30 ou 40 volumes pour les nuls.
Oui, alors la physique pour les nuls, le rock pour les nuls, le ukulélé pour les nuls,
aussi,
par exemple.
Oui,
Mozart pour les nuls, la 5e République, écrire pour les nuls, enfin, être végétarien pour les nuls, le vin pour les nuls, l'apéro pour les nullissimes.
Oui, pour les nullissimes.
Alors là, attention, là, il y a superlatif.
Exactement.
On marque une nouvelle petite pause musicale, on a besoin un petit peu de souffler. Et puis, on se retrouve dans une poignée de minutes avec Jean-Joseph Julot. On s'entraîne toujours pendant la pause musicale à bien articuler. Hein.
Amore, vieni ballare, adesso. Vieni, vieni, vieni.
Je sais, je sais. I love you.
Carino.
Il y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers, je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Branche un peu tes écoute par ici, la mer est déjà repartie, le vieux casino démoli, c'est fini. Pepperto n'est pas comme une vieille nostalgie, des guili-guili, des Bugatti, des oh la la la, des soirées de gala, Riviera. Y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des cravates d'avant-guerre. Le casino c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Fermez les yeux des grandes filles bleues marines, tout à Langui pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sous le satin, caresse du matin, chagrin. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire.
Jean-Joseph Julot. Reparlons un petit peu de l'histoire de France pour les nuls, la littérature française pour les nuls. Comment... Alors, bien sûr, ce sont des ouvrages de 600 pages à peu près. Il faut respecter le cahier des charges, il faut quand même un petit peu débroussailler, ne pas rentrer dans le détail. Il faut vraiment être capable de mettre en valeur l'essentiel, enfin les fondamentaux d'un domaine. Alors, ça doit être un peu délicat et douloureux. Alors, parfois.
Oui, effectivement, c'est un protocole, si vous voulez, pour préparer un dossier lorsqu'on écrit un volume pour les nuls. Si toutefois il y a des gens qui écoutent et qui se disent « Tiens, j'écrirai bien aussi moi mon livre pour les nuls », il faut d'abord. Et cette phase, j'avais raison de souligner qu'il y a une préparation qui nous fait réfléchir vraiment au sujet, c'est l'écriture du sommaire. Le sommaire, sur un temps d'écriture de 6 mois, je passe 3 semaines à faire le sommaire, vous voyez. Parce que lorsque vous faites le sommaire, c'est un peu comme... pour un pilote qui va d'un point A à un point B en avion, s'il est au point A et qu'il se dit « le point B, je le découvrirai bien assez tôt » et il n'y arrivera pas. Nous, il faut absolument que la route soit balisée.
Oui, c'est un peu comme pour le commentaire composé ou la dissertation pour le lycéen. Oui. Avoir un peu le squelette de sa réflexion, le cheminement.
Exactement. Une dissertation qui fait 600 pages ou 700 pages. Et donc là, il faut savoir où on va. Au bout de 3 semaines ou un mois, quand on a terminé le sommaire. Alors on écrit le premier chapitre, on écrit aussi l'introduction si on veut, et tout cet ensemble est traduit en anglais et s'en va aux États-Unis pour que le comité de lecture aux États-Unis donne son avis. Le comité de lecture en France a donné son avis, s'il envoie le texte, vous voyez, et ce sont donc deux comités de lecture qui se mettent d'accord pour qu'un livre paraisse. Il y a d'ailleurs aussi des représentants en Angleterre. C'est toute une préparation qui vise tout simplement à vérifier que le cahier des charges est respecté. Ce n'est pas une inquisition, ce n'est pas surveillance, non. C'est tout simplement pour voir si le livre va bien respecter le cahier des charges. Et après, donc, on se met à écrire en respectant le sommaire qu'on a bâti.
Mais votre histoire de France pour les nuls existe-t-elle en version anglo-saxonne.
Non,
elle est en version française.
De même qu'on n'a pas d'histoire d'Angleterre, l'histoire du Royaume-Uni, on ne l'a pas non plus en France, dans la collection pour les nuls. Chaque pays fait son histoire et elle est difficile à traduire pour le pays, pour d'autres pays, parce que, vous savez, on a fait, par exemple, l'histoire du Québec pour les nuls avec un professeur d'université de Montréal. C'est un livre qui a très bien marché là-bas. En France, l'histoire du Québec... On aime bien le Québec, mais de là à approfondir, c'est plutôt une affaire de spécialiste plutôt que pour le lecteur ordinaire.
Mais cette maison d'édition First, qui donc gère cette collection pour les nuls, bon, moi je connais surtout la Bourgogne pour les nuls de Bernard Lecomte. J'avais
excellent
enregistré
livre,
une émission avec Bernard Lecomte il y a quelques années, je crois que c'est en 2013 qu'il nous a fait cela. Il préparerait le communisme pour les nuls.
Oui, il prépare.
Vous confirmez?
Ah, je confirme, et c'est d'ailleurs, j'ai lu quelques pages, c'est un livre. Il a un style qui est très plaisant, et le livre, j'en suis sûr, va être excellent. Et ça va nous apprendre beaucoup de choses sur le communisme dans le monde.
Mais ça veut dire que votre maison d'édition First et la collection pour les nuls est assez ouverte et tout le monde peut essayer de proposer quelque chose aux nuls. Vous êtes complètement, même si on n'est pas spécialiste, hyper diplômé, si on a compris le fonctionnement et que l'on propose une œuvre de qualité honorablement reconnue, ça passe.
Alors, il faut quand même bien posséder son sujet. En général, posséder son sujet, c'est avoir suivi un enseignement suffisamment long, de qualité, pour pouvoir prétendre à cette... pour pouvoir posséder cette masse de connaissances. Il faut une masse de connaissances très importante, ce qui signifie qu'on maîtrise son sujet. Et la deuxième étape, c'est l'écriture. Vous avez des gens qui possèdent beaucoup, beaucoup de connaissances, mais qui ne parviennent pas à les transmettre par... une écriture adaptée et une écriture qui véhicule jusqu'au lecteur les éléments de ses connaissances. C'est souvent mettre en scène les universitaires, mais il y a des universitaires qui écrivent très bien, qui font de très bons livres, mais il y en a d'autres qui sont des puits de science qu'on adore écouter. Quelquefois, à l'écrit, ça fonctionne moins bien. Alors pour nous, ce que nous recherchons, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise, une excellente maîtrise du sujet, qui soit capable d'écrire, et ce que j'aime bien, par exemple pour Bernard Lecomte ou bien Michel Chamard qui a fait La Vendée pour les nuls, ce sont des journalistes. Les journalistes écrivent avec talent et avec une certaine facilité de plume qui se ressent aussi dans la lecture que fait celui qui possède le livre. Se dit, tiens, mais je rentre facilement dans le sujet. Et ça, c'est quand même indispensable.
Alors Jean-Joseph, je rappelle, donc vous êtes l'auteur de L'histoire de France pour les nuls, La littérature française pour les nuls, La poésie française pour les nuls et Le français correct pour les nuls, qui est, je le rappelle, le premier titre de la série en France, paru en 2001. Merci beaucoup. Alors, à côté de cela, en consultant votre site internet, j'ai vu que l'ancien certifié de lettres avait aussi fait des anthologies, notamment au Cherche Midi ou parfois même pour les éditions First. Alors, Les Fables de La Fontaine en octobre 2016, en janvier 2015, la nouvelle petite anthologie de la poésie française. Alors, quels sont les poètes comme ça qui font battre votre cœur? Bien sûr, ils sont tellement nombreux dans notre patrimoine. Mais est-ce qu'il y a des privilégiés dans votre cœur et dans votre âme?
Alors, celle qui est privilégiée dans mon cœur et dans mon âme, c'est la poésie. La poésie dont René Guy Cadou, poète né en 1920 et mort en 1951, disait « La poésie, c'est inutile, comme la pluie. » Voyez. Donc c'est vrai que si on n'avait pas de pluie, ça serait un désert. Alors, cette petite anthologie de la poésie française, je l'avais proposée aux éditions First en 2005 plus exactement, quand l'histoire était, dû un succès. Je propose à mon éditeur une anthologie de la poésie française. Il me dit « Tu fais ce que tu veux, mais ça ne marchera pas. » Et donc, je l'ai faite, et il se trouve qu'on en a vendu des centaines de milliers d'exemplaires, parce que c'était de petits livres à 3 euros, et beaucoup de gens maintenant me sortent de leur sac ou de leur poche la petite anthologie de la poésie française. Bon, vous êtes dans une salle d'attente, vous regardez par exemple un poème de Verlaine ou de Baudelaire, de poètes que j'aime beaucoup, Victor Hugo que j'adore, et puis aussi de Lamartine, et puis de François Vi, Villon et puis de tous ces poètes qu'on aime, Apollinaire, Aragon, tous ces merveilleux textes qui sont des joyaux dans la langue française et qu'on aime à contempler, à se dire, à se réciter si on veut les apprendre par cœur. Vous savez que c'est un excellent moyen de lutter contre une terrible maladie d'Alzheimer. Si on veut exercer sa mémoire, apprenons de la poésie.
Prévert, vous aimez bien aussi Prévert. Vous savez qu'en 2017, on va commémorer le 40e anniversaire de la disparition de Jacques Prévert. Prévert, qu'est-ce qui vous touche chez lui? Alors, parce que la poésie de Prévert...
Alors c'est une poésie.
C'est une poésie qui n'est pas versifiée.
Qui a une sonorité. Elle a la sonorité, elle a la qualité de la musique de l'oral un peu. Vous voyez, il y a quelque chose de sincère, d'émouvant, qui nous touche immédiatement dans la poésie de Jacques Prévert. Et c'est au point que les lecteurs ont été tellement, étonné d'abord, et puis attiré, séduit par ces textes, que son recueil Paroles, et ça c'est unique dans l'histoire de la poésie, s'est quand même vendu à 2 millions d'exemplaires. 2 millions d'exemplaires à un recueil de poèmes, alors qu'aujourd'hui, vous savez, je regardais les statistiques il n'y a pas longtemps encore, quelqu'un qui publie un recueil de poèmes, c'est entre 300 et 500. Exemplaires de vendus uniquement. Et là, ce sont encore des chiffres très optimistes. La plupart du temps, c'est 100-200 exemplaires. Regardez, par exemple, vous avez Saint-John Perse, qui est un poète qui compte dans la poésie française. C'est une écriture assez mystérieuse. Il vivait dans les îles, aux Antilles. Et puis, il nous a offert des pages somptueuses. Une langue française qui est traitée comme bien plus qu'une reine. C'est magique ce qu'écrit Saint-John Perse. Combien il avait de lecteurs dans toute son existence, il en avait 500. Il n'a jamais dépassé le seuil de 500 lecteurs. À chaque, je veux dire, 500 acheteurs de ces recueils. Donc, entre Prévert, 2 millions d'exemplaires, et Saint-John Perse, 500, vous voyez, la marge est énorme. Et pourtant, la poésie est excellente chez l'un et chez l'autre.
Mais Prévert, il y a peut-être aussi ce message un peu social-politique aussi, parfois.
Oui,
alors, contestataire.
Oui, déjà, quand...
Anard.
Un petit peu... Quoiqu'il fût issu d'une bonne famille de Neuilly, n'est-ce pas? Bon. Et il est entré en révolte très tôt. Hein. C'était un adolescent un petit peu rebelle. Et il a continué de l'être, d'ailleurs. C'est quelqu'un de sympathique et qui a mis en scène aussi, vous parlez de ce petit côté anard, et bien déjà avec le cancre, on voit bien qu'il commence à plaindre les écoliers. Puis après, il y a cette volonté de fuir un peu ce que la vie impose de trop lourd. Donc, même ne serait-ce que dans le symbole de l'oiseau, vous savez, pour dessiner un oiseau, c'est extraordinaire. Ça plaît beaucoup aux enfants et ça plaît beaucoup aux adultes aussi.
Peindre tout d'abord une cage.
Oui, voilà. Oui.
Et c'est aussi un scénariste magnifique qu'on retrouve dans Le Roi et l'Oiseau.
Exactement.
Les filles, le tandem Carnet-Prévert, qui a donné quand même des filles magnifiques.
Les deux frères.
Poétiques aussi, d'une certaine manière, et engagés.
Exactement, aussi, et engagés. Les deux frères Prévert. Oui.
J'aimerais bien, Jean-Joseph, que vous nous parliez d'Émile Botte. Parce que j'ai vu que vous aviez rassemblé ou commenté un recueil de ce poète méconnu, Émile Botte, Les Lieurs de Chardon.
Oui, alors vous abordez là un thème qui est cher à Joël. Celui qui fait les contrepétrés dans Le Canard Enchaîné, Joël Martin. Joël Martin, j'ai eu la chance de le connaître, ça fait plus de 20 ans. Je me rappelle que j'avais signé avec lui à l'École Polytechnique, cadre prestigieux, et on avait ri toute la journée parce que Joël Martin, c'est quelqu'un qui fait des contrepétries.
Ah, donc les Lieurs de Chardon, effectivement.
Oui, c'en est une. Vous connaissez le principe de la contrepétrie. On l'a dit, mais on ne révèle pas ce qu'elle cache.
L'important, c'est que nous n'ayons pas une panne de micro.
C'est ça, bon. Exactement. Moi, ça me fait mourir de rire.
C'est subtil.
Oui, c'est subtil. Et quelquefois, le Canard Enchaîné, l'album de la comtesse, c'était difficile. On pouvait passer un quart d'heure ou une demi-heure à essayer de manipuler les syllabes pour tout remettre dans l'ordre où le facétieux Joël Martin avait fait les choses.
Donc, Émile Botte, alors, pure invention?
C'est une pure invention, oui, c'est ce poète, d'ailleurs, c'est aussi une contrepétrie, vous voyez.
Les malencontreux de l'histoire de France que vous avez fait paraître au Cherche Midi.
Les malchanceux.
Les malchanceux, oui. Pardon, décidément, je fourche.
C'est à cause de Jean-Joseph Junot.
C'est un gros problème, oui, il va falloir que je me ressaisisse avant la fin de l'émission. Les malchanceux de l'histoire de France. Alors, c'est 20 récits historiques sur des personnages de France. Alors, on voit d'ailleurs sur la couverture du livre... Il m'a semblé que c'était Henri IV qui mettait le pied sur une peau de banane, mais c'était peut-être pas lui d'ailleurs.
Oui, c'est une symbolisation, c'est une illustration de ce qui a pu, dans l'histoire, faire chuter tel ou tel personnage. Et c'est une commande de mon éditeur du Cherche Midi, parce qu'au Cherche Midi, j'ai publié des romans. Et d'ailleurs, en 2003, quand on m'a proposé l'histoire de France, le Cherche Midi me demandait aussi un roman. J'ai eu un choix à faire. Je ne me regrette pas. Et c'est malchanceux de l'histoire de France. Eh bien, j'ai mis en scène, vous savez, ces personnages qui ont un destin tout tracé et puis qui butent un jour sur une conjoncture défavorable, néfaste. Et ça a été un grand plaisir d'écriture aussi.
On marque une nouvelle petite pause musicale et puis on se retrouve juste après avec notre invité Jean-Joseph Julot qui travaille pour les éditions First. Vous supervisez toujours en fait des...
Oui,
différents volumes de la collection.
Voilà, c'est ça. J'ai créé la collection. J'ai créé la collection aussi les régions de France. Et dans cette collection, Bernard Lecomte a écrit La Bourgogne pour les nuls. Nous avons publié La Corse pour les nuls, La Bretagne pour les nuls, Le Nord pour les nuls, Le Nord-Pas-de-Calais pour les nuls. Ce qui est en cours, c'est La Normandie pour les nuls. On a fait l'Alsace aussi. Tout ça, ce sont des livres qui sont bien accueillis, très bien accueillis par les lecteurs.
On marque une nouvelle virgule musicale et on se retrouve juste après avec notre invité.
Thank you.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Jean-Joseph Julot, on arrive quand même dans la dernière partie de notre émission. Alors, on a parlé des malchanceux de l'histoire de France. J'ai vu aussi que vous aimiez beaucoup les animaux, les chiens, les ours et également les chevaux. Ils ont fait l'objet d'anthologies, enfin de compilations, de textes sur ces animaux.
Oui, les chiens, les loups et les chevaux, parce que les éditions Omnibus, auprès de la Cité, m'ont demandé de faire une anthologie. Et ça a été une aventure merveilleuse que de relire les poètes pour trouver les textes qui tournent autour de cette thématique. Le thème du chien et de son parent, le loup, et le thème du cheval. Et c'était aussi l'intérêt. Résidait dans le fait qu'on illustrait ces textes avec le fond de l'agence Gamma photographique, hein. Et donc on illustrait les textes avec des photos qui étaient choisies, et ça donne un livre de photos et textes, ça donnait de beaux ouvrages.
Alors le cheval en 60 poèmes, c'était en novembre 2013.
Oui.
C'est en collection de poche, hein, je crois que c'est chez Pocket. Hein,
chez Pocket, oui, parce que l'autre livre qui a été publié chez... C'était Le Cheval en 100 poèmes, et on avait fait Le Cheval en 60 poèmes, parce que vous savez que lorsque vous éditez des textes, lorsque vous mettez des poèmes dans un livre, il faut toujours se renseigner s'ils sont sous droit, s'il y a des droits d'auteur. Alors, lorsque l'auteur est mort, a disparu depuis 70 ans,
domaine public,
vous pouvez les utiliser. Mis à part des cas particuliers, pour Apollinaire, il y avait 15 ans de plus, parce qu'il était blessé de guerre. Et puis, il y avait une autre... une petite séquence d'années supplémentaires, et ce qui fait que Apollinaire n'a été dans le domaine public que en, il me semble que c'est 2014 ou 2015, vous voyez, donc ça fait beaucoup plus. Il est mort en 1918, au passage, vous savez, il est mort le 9 novembre 1918, et lorsque on l'a conduit à sa dernière demeure, le 11, eh bien, tous les passants criaient à Bas Guillaume, mais ce n'était pas Guillaume Apollinaire, c'était Guillaume, le Prussien.
À propos d'Apollinaire, justement, dans les plus beaux poèmes d'Apollinaire que vous avez fait paraître janvier 2014, vous écrivez, c'est dans la quatrième de couverture, Apollinaire, depuis plus de 100 ans, vous êtes vivant.
Oui, parce qu'Apollinaire nous parle toujours. C'est sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Qui peut rester insensible à une telle poésie, à un tel charme des mots, à une telle musique? Personne. Alors, c'est ça qui le rend vivant. Et c'est ça la magie, justement, du poète. C'est qu'il a réussi à demeurer vivant au-delà de sa disparition.
J'ai cueilli ce brin de bruyère.
L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Et ça, c'est un grand sommet de la poésie.
Bon, c'est vrai qu'il est l'inventeur aussi du surréalisme, enfin du terme surréalisme.
Oui, oui, oui.
Et puis qu'il a aussi, il a quand même... peut-être été impliqué dans le vol de la Joconde.
Il y a cette histoire. Ah, mais c'était à l'époque, le Louvre était un moulin. C'était, tout le monde y entrait. Et il y avait Picasso, d'ailleurs. C'est Géry Perret, qui était un personnage un peu bizarre, qui leur fournissait des œuvres d'art, d'ailleurs. Et ça a été découvert. Et donc là, Apollinaire a passé quand même 3 jours en prison parce qu'il était soupçonné du vol de la Joconde. Alors, on a retrouvé la Joconde sous le lit d'un ouvrier italien qui s'est dit, tiens, c'est un beau tableau, ça, je vais l'emporter chez moi. Et alors, la grande invention d'Apollinaire, quand même, c'est qu'il reçoit les épreuves de ses poèmes pour les corriger. Vous savez, c'est ce qui est le plus embêtant quand on corrige les épreuves, c'est la ponctuation. Vous êtes là, zut, il manque une virgule, pourquoi je ne l'ai pas mise quand j'ai écrit? Et là, Apollinaire a le même problème. Que fait-il lorsqu'il voit... Il souffle, c'est une métaphore, il souffle sur les feuilles. Que se passe-t-il? Les points et les virgules s'en vont. Donc vous pouvez regarder dans alcool, vous n'avez ni point ni virgule. Il n'y a plus de ponctuation, ce qui est extraordinaire. Parce que le mot qui est régi par une ponctuation sévère, le point, la virgule, le point-virgule, eh bien, peut tourner la tête de tous les côtés. Il va y avoir des résonances sur les lignes qui précèdent, sur la phrase qui précède. Il n'y a plus d'obstacle. Et c'est ce côté, c'est cette innovation qui rend Apollinaire si singulier aussi.
Oui, ou aussi effectivement l'utilisation, enfin la disposition du poème sur la page. Bon, il y a aussi les calligrammes.
Oui.
Aussi, c'est pas l'inventeur du calligramme, mais il a remis un peu.
Oui.
Parce que chez Rabelais, il y a aussi le calligramme.
Ah, bien sûr, Rabelais, c'est l'un des grands aussi, de nos grands écrivains, qu'on lit très peu, hein, finalement, puisque les programmes scolaires font l'économie.
Et pourtant, l'épisode de l'invention du torche-cul est quand même formidable, cher Rabelais.
Ah oui, et puis il y aurait beaucoup à chercher sur le plan écologique, d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose de très écologique. Ça.
En tout cas, à propos de... Je reviens sur le cheval en 60 poèmes. Dans la quatrième de couverture, vous écrivez « Le cheval en nous, rebelle et libre, c'est la pensée ».
Exactement, exactement. C'est la pensée parce que c'est une image. J'aime beaucoup les chevaux, leur côté mystérieux, leur côté observateur. Ils adorent observer les humains et puis ils s'en méfient et ils ne savent pas s'ils doivent les aimer ou pas. Et moi, j'ai souvent remarqué que lorsque un cheval nous approche, c'est qu'il tente de nous apprivoiser et si quelque chose ne va pas, il va partir au galop et envoyer une ruade comme moi. J'ai pas envie de communiquer avec toi. C'est...
Jean-Joseph, merci d'avoir été devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. On est au terme de l'émission. Je rappelle donc dans la collection Pour les nuls et aux éditions First, l'histoire de France pour les nuls, sous votre plume. Également la littérature française pour les nuls, la poésie française pour les nuls. Et puis, j'allais dire, l'incontournable historiquement parlant de la collection, le français correct. Pour les nuls, vous avez l'impression que le français est bien parlé aujourd'hui, peut-être mal à la télévision, un peu mieux tout de même sur les radios?
Alors, il y a deux choses. Vous savez, à la télévision, on dit le français est très mal traité. Mais enfin, j'ai constaté quand même que les journalistes, on confond les interventions de personnages publics, les interventions dans les interviews et les interventions diverses avec ce qui les encadre, c'est-à-dire le langage journaliste, en général, c'est un langage qui respecte la langue française. C'est une bonne pratique de la langue française. J'ai fait des émissions de télévision, j'ai même fait une année sur France 2, et je me rappelle qu'un jour, un animateur télé qui est un peu... qui surveille tout ce qui se passe lorsqu'il y avait une interruption publicitaire, et il a surgi sur le plateau, il a dit... Toi, tu as fait une erreur. Et il surveillait de très près la qualité du langage. Donc, je pense qu'il y a quand même, dans la presse, le souci de respecter le langage. Si le français s'en va un peu à volo, ça n'est pas... Je pense que la presse, depuis que la radio et la télévision existent, a contribué quand même à donner une unité de prononciation, une unité d'utilisation de la langue française qui crée un ensemble très, très cohérent.
Il y a une faute qu'on entend tout de même souvent encore, que ce soit à la radio ou à la télévision, c'est le subjonctif après que.
Ah oui,
alors qu'il faut, après que exige le mode indicatif.
Oui.
C'est une erreur qu'on entend fréquemment.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout simplement parce que avant que, eh bien, on a un doute sur, sur l'action exprimée par le verbe, c'est pas avant que tu sois arrivé, et puis après que tu es arrivé.
Oui, l'action est envisagée par l'esprit, elle n'est pas actualisée.
Et donc, on emploie l'indicatif, le mode du réel. L'indicatif, c'est le mode du réel. Le subjonctif, c'est le mode du doute. Et le problème, c'est que c'est tellement entré dans le langage que quelqu'un va me dire, mais attention, tu fais une erreur. Donc, si on emploie l'indicatif après que, quelquefois, vous avez des gens qui croient qu'il y a une erreur. Et c'est là que des gens vont, par exemple, écrire à un journaliste, vous avez fait une erreur, alors qu'il n'a fait que respecter la langue française.
Après que vous aurez coupé votre poste de radio, sachez que vous pouvez retrouver en podcast cette émission sur le www.yannickpetit.fr. Merci Jean-Joseph Julot d'avoir été avec nous. Je remercie nos auditrices et auditeurs et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h sur Radion. Merci Jean-Joseph.
Merci à vous, j'ai été ravi de participer à votre émission. Merci de votre accueil.